Chaque semaine, Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens, vous partagent sur Radio Présence Pyrénées leurs différents choix, que ce soit en nouveauté ou en poche. Alors, sans plus tarder, nous les retrouvons. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous débutons avec vous Christelle.
Avec plaisir Eric. Et effectivement, moi je vais vous parler d'une nouveauté, un roman qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle « Des vies à bâtir » de Basile Mulciba aux éditions Gallimard. Alors c'est un deuxième roman de ce jeune auteur et c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu, un roman que j'ai trouvé fascinant grâce à une écriture que j'ai trouvée vraiment virtuose. Et je vais vous expliquer un peu plus avant pour quelles raisons. Alors, l'auteur nous embarque dans la France de l'après-guerre, en 1949 exactement, au sein d'une famille, un jeune couple, et tout cela entre Paris et Le Havre. Parmi ce jeune couple, les deux sont architectes et les deux ont de grands rêves, de grandes ambitions professionnelles à un moment en France où il est question de grands plans de reconstruction engagés et soutenus par l'État. Alors lui, le narrateur, s'appelle Émilien. Donc un jeune architecte, et Émilien, il est issu d'un milieu plutôt modeste, même très modeste. Elle, sa compagne, Monica, à l'inverse, est issue d'un milieu très très aisé dans lequel Émilien a beaucoup de mal à trouver sa place. Et malgré cela, j'allais dire, malgré ses relations familiales et les propres compétences de Monica qui sont exemplaires, eh bien c'est Émilien qui est au final choisi pour venir accroître un véritable bataillon d'architectes dédié à la reconstruction du Havre, et tout cela sous la houlette du grand architecte Auguste Perret, le maître du béton armé. Alors on va apprendre beaucoup de choses d'ailleurs sur ce personnage et même sur finalement les principes de construction. On va un peu rentrer dans le milieu de l'architecture, puisque Émilien part s'installer au Havre, tandis que Monica, qui vient d'accoucher, reste à Paris. Et l'auteur va relater l'évolution de cette relation familiale, de cette relation de couple, au rythme, je trouve, et c'est là où l'écriture devient assez virtuose, au rythme des dessins d'architectes, au rythme de la vie des projets, de ces îlots, entre guillemets, c'est le nom dédié à ces plans de reconstruction. Et je trouve que parfois, l'auteur nous donne à entendre presque le bruit du crayon et le bruit de la mer, puisque vous le savez, Le Havre est au bord de la mer. Alors, Émilien évolue lui aussi au rythme de ses projets, de cette œuvre monumentale. Encore une fois, on apprend vraiment beaucoup de choses sur cette reconstruction du Havre, mais il évolue aussi grâce aux relations qu'il noue sur place et aux secrets, aux traumatismes de la guerre que chacun, chacune dévoile petit à petit. Et puis, il y a Monica qui reste à Paris et qui, elle aussi, suit le cours de son existence comme on suivrait le cours de la Seine. Donc, au final, vraiment un second roman que j'ai beaucoup aimé aux multiples entrées de cette France de l'après-guerre avec parfois, je trouve, des images à la Doisneau mélangées aux photos et au plan de la ville du Havre, détruite, puis, ouais, comme sur la jaquette, donc cette ville détruite, puis reconstruite, comme une sorte de parabole, peut-être, de certains des personnages du roman. Voilà, donc peut-être un auteur à découvrir, hein, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Basile Mulciba, Des vies à bâtir, aux éditions Gallimard.
Merci Christelle. Dans un instant, votre second choix, ça sera un second choix plutôt pour les jeunes, hein, pour les enfants même. Hein. Voilà. Oui. Sylvain.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui est encore une fois sorti au début de l'année, dans la rentrée littéraire d'hiver, donc, qui s'appelle « Le souffle de la forêt », un livre de Simonetta Greggio, donc le sous-titre « Sur les traces de Simona Cossack ». Cossack, pardon. Alors, dans ce livre, l'autrice italienne Simonetta Greggio nous permet et nous donne à découvrir une figure que personnellement je ne connaissais pas et que je trouve assez exceptionnelle en la personne de Simona Cossack. C'est donc une biologiste polonaise qui, pour ses recherches, a vécu de nombreuses années complètement retirée de tout, dans une cabane sans électricité et sans eau courante, dans l'une des dernières forêts primaires, donc complètement à l'extrême est de la Pologne, aux confins de la Biélorussie, hein, une forêt primaire dont j'avais entendu parler, mais que j'avais jamais rien lu dessus, qui s'appelle Białowieża. Voilà, donc elle nous présente le destin absolument étonnant de cette femme, qui a bien entendu, au cours de ces années, porter un regard sur la nature et le vivant qui forcément nous interpelle, et surtout, c'est ce qui ressort de ce livre, donc sa vie au milieu de la forêt et au milieu des animaux, lui a fait très très rapidement développer une relation aux animaux absolument hors norme. Alors, bon, c'est difficile à la radio, hein, d'en parler. Il y a un crédit photo avec quelques photos absolument étonnantes. Déjà, la photo de couverture, hein, vous la voyez se promener en forêt. On est en hiver, c'est sous la neige. Elle se promène avec un panier, donc on peut imaginer qu'elle récolte des choses. Mais surtout, elle est entourée de 7 ou 8 biches qui la suivent, mais absolument comme... Il faut savoir qu'elle vivait avec un sanglier aussi, qu'elle avait recueilli petite, un lynx... Également, il y a quelque chose d'absolu. Il y a des photos absolument magnifiques. Et puis des corbeaux, enfin voilà, différents animaux avec lesquels vraiment elle a développé une relation extrêmement, extrêmement forte. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est une sorte de parenthèse, hein. Vous avez l'impression de passer un moment avec cette personne que je ne connaissais pas, mais dont vous découvrez à la fois la vie et aussi l'œuvre, parce qu'elle a un regard effectivement sur le monde et sur la façon dont l'homme habite le monde, qui aussi nous interpelle à l'heure actuelle, hein, où quand même on maltraite quand même bien souvent la nature et les animaux qui y vivent. Et donc ça nous interpelle. Et puis vraiment, c'est aussi la découverte d'un destin d'une femme. Alors, pas forcément toujours facile, hein, c'est ce que nous montre Simonetta Greggio, elle a ses zones d'ombre, mais c'est vraiment un livre très intéressant que j'ai envie de vous faire découvrir sans tarder. Alors, peut-être juste l'introduction, hein, j'aime bien lire toujours la première page pour vous donner un petit peu le cadre. En fait, c'est Simonetta Greggio nous présente, en fait, dès le premier chapitre, la personne dont elle va nous parler pendant ce livre. Simona Gabriela Cossack, née le 30 mai 43 à Cracovie et morte le 15 mars 2007 à Białystok, est une biologiste, zoologue, professeure de sciences forestières, femme de radio et écrivaine polonaise. Elle a vécu plus de 30 ans dans une maison forestière sans électricité ni eau courante à Białowieża, l'une des dernières forêts primaires d'Europe, aux confins de la Biélorussie. Cette femme, devenue aujourd'hui une importante figure écoféministe, a incarné cette philosophie de vie et la vision du monde qu'elle sous-tend sans jamais en faire une théorie. Simona n'a jamais écrit de manifeste. Son existence tout entière est une déclaration d'amour aux plus fragiles. Son unique ambition était de protéger, aider, sauver. Elle ne cherchait ni les récompenses, ni les titres, seulement à veiller sur ce qui peut encore être épargné dans ce monde livré au saccage systématisé. La trace qu'elle a laissée, on ne peut la suivre que comme elle nous l'a enseigné, avec la distance que tout animal impose, celle de la connaissance, du respect et de la liberté. Ce roman du réel s'inspire de son histoire secrète, de son passage sur cette terre au creux des bois. Voilà. C'est vraiment un livre, je vous dis, voilà, vous découvrez un personnage assez, assez exceptionnel. Donc je répète le titre, Le souffle de la forêt sur les traces de Simona Cossack de Simonetta Greggio aux éditions Artaud.
Merci Sylvain. Pareil comme pour Christelle, à dans un instant pour votre second choix. Christelle.
Alors, on continue avec le dernier album de Peggy Neal. Vous savez comme j'aime cette autrice illustratrice jeunesse. J'adore toujours son univers. Et à nouveau, le dernier, eh bien, me réjouit. Alors, ça s'appelle La surprise magique. Voyez, avec ce oui. Titre en rose, comme mon pull, en forme d'hommage à la surprise magique donc de Peggy Neal, toujours chez Actes Sud Jeunesse. Alors, cette fois, Peggy Neal embarque nos jeunes lectrices, nos jeunes lecteurs sur l'île de Rouspikidou. Alors, sur cette île, vous avez trois familles et trois familles qui ne se parlent jamais. On a les Choupidou, les Rouspétouf et les Panikiki. Alors, vous voyez, comme à chaque fois, et peut-être là encore plus, je trouve qu'il y a des trouvailles langagières, bon, moi qui me plaisent beaucoup, comme le belvédère des grognons qui deviendra le belvédère des Calinous, le lac des sentiments gelés qui deviendra le lac des Copinous. Alors, les Rouspétouf, bah, comme le nom l'indique, ils râlent tout le temps et bah, leur environnement leur correspond avec des trucs qui piquent comme des cactus. Les Choupidou, bah les Choupidou, comme le nom l'indique, c'est le bonheur permanent avec aussi un environnement tout rond, tout doux, tout souriant. Et puis, il nous reste les Panikiki. Alors eux, ils paniquent tout le temps et du coup, ils ont décidé de vivre sous terre. Jusqu'au jour, alors, sur l'un des chemins de l'île, une chose étrange va bloquer le chemin des Rouspétouf. Ni une ni deux, les autres familles répliquent et se demandent ce que contient cette chose étrange. Eh bien, évidemment, je ne vous en dirai pas plus, mais pour la première fois, eh bien, cette chose étrange va peut-être réunir ces trois familles avec une surprise et une surprise qui peut-être tissera un lien entre tous. Et puis, comme à chaque fois, hein, alors vous savez qu'il y a beaucoup de cherche et trouve avec Peggy Neal et de fois en fois. Encore une fois, il y a plein de petites trouvailles. Et à la fin, eh bien, vous avez les trois familles, plus une quatrième. Mais je ne vous parle pas de la quatrième, parce que la quatrième, elle fait partie de la surprise. Mais vous avez toute la famille Choupidou, avec les Choupipop, le Choupifleur, Choupicool, ou la famille Rouspétouf, avec Rouspouf, Rouspette, Rouspluck, et la famille Panikiki, avec Panichampi, Panitoc ou Panitrac. Et nos jeunes lectrices et nos jeunes lecteurs, eh bien, voilà, peuvent regarder cette dernière page et essayer de retrouver eh bien, tous les membres de ces trois familles, plus une quatrième qu'ils découvriront, j'espère, avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'envie. Alors, La surprise magique, dernier album de Peggy Neal chez Actes Sud Jeunesse.
Je vois, Christelle, que vous êtes bien amusée en lisant ce livre.
Comme d'habitude, j'adore.
Sylvain, quelle famille ?
Alors là, je suis désolé, on va quitter la parenthèse enchantée que vient nous offrir Christelle. On va quitter le monde des Panikiki et des Choupidou. Et là, je vais vous plonger vraiment dans un pur roman noir que j'adore, qui vient de sortir en poche. C'est une sortie poche là, très récente. Donc, Toutes les nuances de la nuit de Chris Whitaker aux éditions Pocket. Alors, Chris Whitaker, j'en avais déjà parlé parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman publié en français, traduit en français, qui s'appelait Duchesse. Et là, donc, c'est un roman qui était sorti il y a un an et qui maintenant est en poche. Et donc, les personnes vont avoir la chance de découvrir peut-être cet auteur. Alors, J'allais dire, moi je suis très fan, hein, j'adore Chris Whittaker, j'ai lu donc les deux, Duchesse et celui-ci, Toutes les nuances de la nuit, et vraiment, à chaque fois, j'ai été émerveillé par la virtuosité de cet auteur. Alors, ce roman, Toutes les nuances de la nuit, vous êtes toujours dans une petite ville américaine, très ville très moyenne, sans histoire apparente, et vous allez lire un polar qui va se dérouler sur près de trois décennies dans cette ville donc du Missouri. Alors, dans les premières pages, vous y découvrez un jeune garçon, Patch McAulay. Lui, alors, c'est un jeune adolescent. Il est un peu le souffre-douleur de son lycée parce qu'il n'est pas très très costaud. Et en fait, il se promène dans la nature et il entend des cris. Et il voit donc une de ses camarades de lycée qui est en mauvaise posture parce qu'elle est en train d'être agressée physiquement par un homme qui porte une cagoule. Il intervient en essayant de dire à l'homme d'arrêter. Sa camarade de classe fuit le lieu et... Patch McAulay disparaît, on ne retrouve que un t-shirt ensanglanté sur le chemin donc qu'il empruntait. Il va disparaître, la police va mener une enquête et l'enquête va être classée sans suite. Au bout de quelques mois, on dit bon, on ne sait pas où il est, il a disparu, c'est un peu étrange, on a retrouvé que son t-shirt. Mais il y a une copine, une autre camarade de lycée qui trouve quand même cette histoire un petit peu embêtante et qui va continuer un peu l'enquête en essayant de savoir ce qui s'est passé. Et puis, coup de théâtre. Ça, je vous raconte, c'est dans les premières pages. Hein. Coup de théâtre, Patch McAulay va réapparaître quelques mois après, près de 6-7 mois après, et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 7 mois. Et c'est effectivement tout l'enjeu du roman. On va revenir en arrière, il va revenir en arrière, et il va essayer de tirer au clair cette affaire et de comprendre ce qui s'est passé. C'est absolument virtuose. C'est un roman que vous dévorez, qui fait près de 600 pages. 800 pages, pardon, mais qui est vraiment ciselé avec bien sûr un final absolument étonnant, hein, auquel je n'attendais pas du tout. Et au-delà de ça, comme dans Duchesse, ce que j'aime beaucoup, c'est que Chris Whittaker, à la fois, c'est un grand auteur de polar. Il vous plonge dans une histoire, dans une enquête, et vous êtes vraiment obsédé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais en même temps, il a un énorme talent pour vous faire appréhender ces personnages, vous êtes au plus près d'eux, vous avez l'impression de les connaître, de connaître leur psychologie, de connaître aussi ces atmosphères de petites villes américaines, où tout le monde s'épie et tout le monde pense se connaître et en fait on ne se connaît pas tous. Donc vraiment je serais tenté de dire nouveau chef-d'œuvre de cet auteur, totalement addictif et vraiment pour moi c'est un auteur qui devient complètement incontournable, je pense que je lirai systématiquement tous les livres de Chris Whittaker parce que vraiment les deux premiers que j'ai lus et celui-ci étant le deuxième m'ont absolument mais bluffé et il commence à avoir un lectorat vraiment qui le suit. Alors je rappelle le titre, hein, Toutes les nuances de la nuit, Chris Whittaker aux éditions Pocket.
Merci Sylvain pour votre second choix. Christelle, à présent nous allons nous tourner vers l'agenda des animations ici à la librairie indépendante à Saint-Gaudens.
Avec grand plaisir, Eric. Et oui, puisque cette fois, ça approche. La rencontre mercredi prochain, donc mercredi 25 mars à 19h à la librairie. Rencontre avec le romancier Hugo Boris autour de son nouveau roman qui s'appelle « Regarde-moi tomber mon amour » aux éditions L'Iconoclaste. Un roman vraiment passionnant autour du personnage d'Arnaud, un secouriste chevronné de haute montagne qui va voir sa vie basculer suite à un sauvetage raté. Et je vous en dis pas plus, sinon que effectivement c'est une belle occasion toujours hein, que de rencontrer des romanciers ou des romancières et que dans ce roman vraiment pour les amateurs, amatrices de montagne, et on sait qu'il y en a beaucoup dans le Comminges, il y a vraiment des pages saisissantes sur la montagne, sur les glaciers, sur le milieu du sauvetage. Donc vraiment, on vous invite toutes et tous hein, à venir rencontrer Hugo Boris. Et j'en profite pour remercier l'association du prix du jeune écrivain, grâce à laquelle cette rencontre a été possible. Et puis la semaine d'après, eh bien, pour une première, nous aurons une rencontre théâtrale avec Jean-Marc Tuillier autour de l'étymologie des contrariétés. Et là aussi, on vous invite vraiment chaleureusement. Alors d'abord, à venir vous inscrire parce que la jauge est limitée. Donc ce sera le jeudi 2 avril. Attention, à 20h30. Hein. Voilà. Mais vraiment, la inscription obligatoire, puisque bon, ça dure un peu plus d'une heure. Et donc, voilà, on est assis, mais on ne pourra pas accueillir tout le monde. Et puis après, mais on en reparlera, eh bien, on aura le grand plaisir d'être à nouveau partenaire du Festival de littérature jeunesse, Vitamine L, 4e édition. Hein. Attention, ce n'est pas rien. Bah là, l'indépendante est bien mobilisée et surtout, alors moi je suis très contente puisque j'aurai le plaisir, après Peggy Neal, j'aurai le plaisir d'animer une rencontre à la librairie avec Henri Meunier, le papa de Taupe et Mulot, dont j'ai déjà parlé. Et oui, les célèbres Taupe et Mulot. Voilà. Mais on reparlera de tout ça parce que c'est vrai qu'on a un programme printanier vraiment bien chargé, bien rempli, et surtout avec, je trouve, vraiment des orientations, des choix, des domaines vraiment extrêmement variés. Il y en a pour tous les goûts. Et au passage, aussi, vous dire que l'atelier Poème Collage, qui s'est tenu hier, et on remercie encore Suzanne, qui nous avait proposé cet atelier, eh bien, c'était formidable. Donc je pense qu'on renouvellera l'expérience parce qu'on a passé vraiment un excellent moment. Je pense que tout le monde était content, tout le monde a fait œuvre créatrice, et c'était voilà, une petite bulle, une petite parenthèse de bonheur, de rencontre, mais aussi de silence et de création. Donc on renouvellera l'expérience.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'Indépendante à Saint-Gaudens, et à la semaine prochaine.